comme le psalmiste, nous confessons notre péché devant toi. Nous avons péché, gravement péché. Nous avons enfreint ta loi de plusieurs manières, de manière consciente, de manière inconsciente, Père Céleste, en faisant des choses, en n'en faisant pas d'autres, en ne faisant pas le bien que tu demandes de nous parfois. Et ce matin, encouragé par la lecture de ce psaume, nous voulons vraiment te demander pardon, en sachant qu'effectivement, comme le dit encore le psalmiste, tu ne rejettes pas un cœur qui s'humilie. Tu ne rejettes pas une âme qui reconnaît son péché, qui s'incline devant toi. Et c'est alors avec cette assurance que David avait dans le futur, que nous avons maintenant, regardant à la croix, Père Céleste, que nos péchés ont été portés par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec cette assurance que nous paraissons devant toi ce matin, en te demandant de bénir ce culte, en te demandant de nous nourrir, de nous édifier, de créer en nous un cœur pur, comme le dit David, Père Céleste. Oh oui, travaille en nous, Père Céleste, aide-nous à mieux comprendre ton plan de salut, à mieux comprendre ta volonté pour nous ici-bas sur la terre. Nous sommes amenés à vivre selon tes préceptes, selon tes commandements. Eh bien, aide-nous, Père Céleste, vraiment à suivre ce chemin. Tu vois que le monde vit autrement, le monde pense autrement, et qu'il est toujours extrêmement difficile de penser à contre-courant, de vivre à contre-courant. Eh bien, donne-nous la force et permets que ce culte puisse nous aider, là où nous sommes, à mieux te suivre, à mieux te servir. Nous te demandons tout cela dans le bon nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Texte de la prédication de ce matin, donc nous continuons la première épître de Paul aux Corinthiens, nous sommes au chapitre 6 et nous allons lire les versets 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certes non. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voici donc la lecture du texte de la prédication de ce matin. Que notre Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit bénissent ce temps de prédication. Alors souvenez-vous, chers amis, qu'au chapitre 5 et au début du chapitre 6, nous avons vu que Paul reprend les Corinthiens à propos du désordre qui règne au sein de leur assemblée. En effet, on découvre tout d'abord donc au chapitre 5 que lorsque ces chrétiens devraient intervenir avec rigueur contre ceux des leurs qui pêchent scandaleusement dans l'Église, ils ne le font pas et ils laissent ainsi la corruption se répandre, souiller l'assemblée et déshonorer le Seigneur. On lit ensuite dans les versets 1 à 11 du chapitre 6, donc cette première partie de ce chapitre que nous finissons aujourd'hui, que lorsque ces chrétiens sont appelés à régler les différends qui surgissent entre eux, selon l'autorité que le Seigneur leur a déléguée, ils ne le font pas non plus. Ils ne le font pas, préférant faire appel aux magistrats de la cité, qui n'ont pourtant pas reçu comme prérogative de la part du Seigneur de régler les problèmes de l'Église. Voilà deux sujets de honte dans ce chapitre et demi, deux sujets de honte qui sont la cause ou les causes de plusieurs dysfonctionnements dans cette église de Corinthe. deux sujets de honte qui doivent être réglés, deux dysfonctionnements, et pour ce faire, Paul apporte des solutions. Et il exhorte ainsi, au chapitre 5, ces chrétiens à excommunier les pécheurs scandaleux qui sont parmi eux. Puis à résoudre ensuite, au début du chapitre 6, les problèmes interpersonnels qui peuvent surgir entre eux sans faire appel pour cela aux magistrats. Et dans la deuxième partie de ce chapitre 6, donc, que nous venons de lire, et dont nous allons parler maintenant, eh bien Paul change de sujet. Il aborde un autre grave problème qui souille cette église de Corinthe. Il s'agit de l'inconduite dans le domaine sexuel, ou plutôt de relations sexuelles extra-conjugales. Car certains chrétiens de cette église s'appuient faussement sur cette maxime qui vient peut-être de Paul, au jour où il était parmi eux. Tout m'est permis, cette maxime-là, pour continuer de s'adonner impunément à leur pratique d'avant-conversion qui consistait à fréquenter des prostituées pour assouvir leurs désirs sexuels. Alors, il est certainement vrai que l'apôtre leur avait enseigné, lorsqu'il était parmi eux, que celui qui est en Christ, n'étant plus sous la condamnation de la loi, ni même sous la domination du péché, est libre de la colère et du juste châtiment de Dieu, ainsi que du pouvoir du diable. Et dans ce sens, il est réellement libre. Et du fait de cette liberté en Christ, il n'a donc pas à se soumettre aux commandements abusifs que voudraient lui imposer peut-être d'un côté des légalistes juifs ou d'un autre côté des gnostiques qui enseignent les uns et les autres « ne prends pas, ne touche pas » ou qui prescrivent, comme Paul le dit à Timothée, de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Celui qui est en Christ peut bien au contraire jouir librement des biens que Dieu lui accorde en abondance, dont la sexualité. Toutefois, ce que ces Corinthiens ou certains de ces chrétiens de Corinthe n'ont pas compris ou ne veulent tout simplement pas comprendre à propos de cette liberté chrétienne, c'est que celle-ci ne signifie pas qu'ils peuvent se livrer dès lors à l'inconduite et particulièrement au désordre d'un point de vue sexuel. Quelques-uns, en effet, sous couvert de liberté chrétienne, rejettent toutes les exigences de la parole de Dieu, affirmant qu'ils ne sont plus sous la loi et qu'ils peuvent donc faire ce qui leur semble bon, et particulièrement dans ce domaine. Pourtant, à contrario de cet enseignement hérétique, l'apôtre Paul, mais aussi l'apôtre Pierre, dans le Nouveau Testament, déclare clairement que si la liberté acquise par Christ nous libère bel et bien de la condamnation de la loi de Dieu, elle ne nous libère pourtant pas de l'obéissance à cette loi. Car cette loi de Dieu est le reflet de son caractère, la manifestation souveraine de sa volonté souveraine et intangible pour l'homme. Et je cite Paul et Pierre à ce propos. Frères, c'est Paul qui écrit aux Galates au chapitre 5, au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et encore donc l'apôtre Pierre qui écrit ceci, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Ainsi donc, et pour faire le lien avec le passage que nous avons vu la dernière fois, ces versets 1 à 11, eh bien nous comprenons que l'apôtre, au verset 12, semble dire à ses destinataires corinthiens, « Il est possible, et il est même certain pour beaucoup d'entre vous qu'avant d'être libérés de la condamnation de la loi et de l'esclavage du péché par votre salut en Jésus-Christ, vous ayez été débauchés, adultères, dépravés. Mais aujourd'hui, ayant été lavés, sanctifiés et justifiés, rappelez-vous, c'était la fin du texte que nous avons vu, vous ne devriez plus vivre comme autrefois, en particulier dans le domaine de la sexualité, sous prétexte de liberté chrétienne. Il serait par contre normal que vous pratiquiez dans ce domaine ce qui est juste selon la volonté révélée de Dieu. Et c'est ainsi que, dans ces versets que nous considérons ce matin, pour les inviter à une vie sexuelle pure, eh bien l'apôtre argumente tout d'abord par la négative, en montrant à ses Corinthiens les dangers de l'inconduite sexuelle, c'est-à-dire son inutilité, on en parlera tout d'abord, et le risque d'asservissement ensuite. Et puis, de façon positive, dirons-nous, il leur révèle ensuite que leur corps étant si intimement lié au Dieu trinitaire, il est normal qu'ils vivent donc de façon conséquente leur sexualité. Et le titre de la prédication est celui-ci ce matin, « Ne livrez pas vos corps à l'inconduite ». Ne livrez pas vos corps à l'inconduite. J'aurai deux points. Le premier est celui-ci, l'asservissement dû à l'inconduite. L'asservissement dû à l'inconduite est le second, un corps maîtrisé pour Dieu. Un corps maîtrisé pour Dieu. Et nous prenons tout de suite le premier point, l'asservissement dû à l'inconduite. Et c'est tout simplement le verset 12. Et comme vous le remarquez, l'apôtre commence donc son plaidoyer en faveur d'une saine vie sexuelle en reprenant cette grande déclaration de liberté chrétienne, « Tout m'est permis ». Mais il y ajoute une double restriction. La première, c'est que tout n'est pas utile. Et la seconde, c'est qu'il ne faut pas se laisser asservir par quoi que ce soit. Je vous propose que nous considérions donc ces deux restrictions mises en garde l'une après l'autre. Tout m'est permis d'abord, mais tout n'est pas utile. Alors Paul commence par affirmer ici que le péché d'inconduite n'est jamais profitable à celui qui le commet. En effet, le terme qui est traduit ici par « utile » signifie en réalité quelque chose qui procure un avantage ou qui procure un profit quelconque. Alors, qu'est-ce que l'on doit comprendre? Eh bien, on doit comprendre de la part de l'apôtre qu'il y a de graves conséquences pour un homme et un chrétien a fortiori à se laisser aller à une vie de débauche sexuelle. En effet, chers amis, même s'il s'agit d'un péché, parmi tant d'autres péchés que nous pouvons commettre dans notre vie, on peut dire qu'aucun ne comporte plus de pièges cachés et ne cause plus de difficultés et de destruction que le péché sexuel. Et c'est d'ailleurs ce qui vaut ce développement des versets 13 à 20 de la part de l'apôtre. Car ce péché peut conduire au mensonge, au vol, au meurtre même. Et il engendre très souvent l'amertume, la haine, la calomnie, le refus de pardonner. Et il détruit souvent de multiples vies, si ce n'est physiquement, du moins spirituellement et psychiquement. Et à titre d'illustration, des dangers et des dommages du péché sexuel, des relations sexuelles extra-conjugales, eh bien certainement que le texte de Proverbe 5 est celui qui nous instruit le mieux. Et c'est ainsi que nous lisons donc, de la part peut-être de Salomon au début de ce chapitre 5, plus précisément au verset 3, que les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Alors soyons clairs. Il est bien entendu que cette vérité s'applique aussi bien à la prostituée dont parle Salomon qu'à toute autre femme ou tout autre homme qui va tenter de séduire un homme ou une femme. Et l'idée contenue dans cette affirmation de Salomon, c'est que l'attirance sexuelle, en dehors du mariage, est extrêmement troublante et puissante. Elle semble au premier abord belle, agréable et bonne. Et elle fait même miroiter plaisir et satisfaction. Pourtant, et comme le dit Salomon dans la suite de ce passage, à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Ainsi, chers amis, on peut affirmer que la première caractéristique du péché sexuel dont nous parle l'apôtre ici est la tromperie. Il n'apporte jamais ce qu'il promet. Alors il peut certes offrir une satisfaction passagère, c'est évident. Mais celle-ci est nécessairement suivie de grandes désillusions. Il semble avoir les promesses de la vie, certes, mais il est un chemin de mort, nous dit Salomon. Et qui mieux que lui pouvait écrire sur ce sujet? En effet, chers amis, les relations sexuelles illicites commises avec des prostituées ou des hommes ou des femmes mariées ou non, mais aux mœurs légères et en dehors du mariage, sont toujours incertaines. Elles sont toujours incertaines pourquoi? Car rien n'unit vraiment, profondément, sur la durée et à tous égards ceux qui y sont impliqués, si ce n'est cette jouissance temporaire du corps. Et le deuxième aspect tragique du péché sexuel, c'est que souvent ceux qui s'y adonnent ne se rendent pas compte que cette union n'a qu'un caractère plus ou moins éphémère. Je viens un petit peu de l'esquisser précédemment. Et c'est ainsi que ceux qui le pratiquent s'enfoncent dans une relation qui est vouée par avance à la dissolution, qui sera donc, eh bien, la source d'une grande désillusion. J'aimerais rajouter ceci, chers frères et sœurs, c'est que c'est avec une grande sévérité que Dieu considère l'immoralité sexuelle. Non seulement la relation sexuelle hors mariage entre deux personnes célibataires, mais surtout l'adultère. Et à ce propos, j'aimerais prendre cet exemple, et ce n'est pas pour rien que j'ai lu avec vous tout à l'heure ce psaume 51, que nous l'avons lu ensemble. À ce propos, souvenez-vous donc de David. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur l'utilisa grandement pour diriger Israël. Et le Seigneur lui permit même de rédiger des pans entiers de sa parole, des psaumes magnifiques. Et le psaume 32, le psaume 51, qui sont en rapport avec ce dont nous allons parler, en font partie. Mais d'autres psaumes encore, messianiques entre autres. Toutefois, lorsque David tomba dans l'adultère avec Bathsheba, ce qui l'amena jusqu'au meurtre du mari de cette femme, eh bien Dieu ne lui épargna pas les conséquences terribles de son péché. Et c'est ainsi que Dieu envoya son prophète Nathan, et qu'au moyen de son prophète, il dit à David, « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Voici, je vais faire sortir de ta maison malheur contre toi, et le fils qui t'est né mourra. » Et l'Écriture nous apprend effectivement que par la suite, malgré sa repentance, David paya pour ses péchés presque chaque jour de sa vie. Plusieurs de ses fils furent rebelles, jaloux, rancuniers. Absalom est peut-être l'exemple le plus terrible parmi tous ses frères. Il y eut des relations sexuelles entre un frère et une sœur dans la famille de David. Sa vie de famille ne fut finalement qu'un immense gâchis pour cet homme pourtant si proche de Dieu. Et nous découvrons donc, chers amis, au moyen de cette illustration terrible, la réalité de cette affirmation de l'inutilité de l'inconduite sexuelle que nous présente dans ce verset 12 l'apôtre Paul. Et je dirais ceci, chers frères et sœurs, c'est que la parole est claire quant au jugement de Dieu par rapport à cela, mais elle est claire aussi en ce qui concerne le remède qui nous permet de ne pas tomber dans ce piège. Et c'est toujours Salomon qui nous en parle dans ce proverbe 5. Il dit ceci à celui qui l'enseigne, « Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. » Et Paul, finalement, lui emboîte le pas au verset 18 du texte de ce matin, quand il dit « Fuyez l'inconduite !» Et souvenez-vous à ce propos, toujours à titre d'illustration, de l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar. Celle-ci, vous vous en rappelez, voulait coucher avec lui. Et c'est ainsi que, un jour, elle le saisit par son vêtement pour s'attacher à lui. Mais que fit Joseph? Eh bien, il lui laissa son vêtement entre les mains et il s'enfuit au dehors en courant. Pour lui, ce n'était pas le moment de faire de la relation d'aide. Ce n'était pas le moment de discuter, de s'expliquer avec elle, etc. Mais c'était le moment de fuir loin de cette tentation. Alors, chers amis, lorsqu'on est pris sans l'avoir voulu, peut-être dans une telle situation, cela peut arriver à chacun de nous. La seule chose à faire et de s'en extirper le plus vite possible. Et on peut dire ceci, c'est que dans ces cas-là, la fuite est à considérer comme une réelle vertu chrétienne. Ainsi donc, comme nous venons de le voir, les expériences sexuelles extra-conjugales procurent certainement du plaisir, mais aucun enrichissement. Celui qui a de telles expériences peut être comparé à un homme qui vole une banque. Il en retire certes quelque chose, mais l'argent ne lui appartient pas. Et un jour, il devra en payer le prix de cet argent qui a été volé. Deuxième restriction de Paul, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et par cette seconde restriction, donc, Paul veut nous faire comprendre que de façon générale, je dis bien de façon générale, celui qui, au nom de sa liberté, veut jouir et posséder le monde et tous ses plaisirs, finit par être possédé et asservi par le monde. Et dès lors, il perd cette soi-disant liberté à laquelle il tient tant. Et ce que nous devons comprendre dans ce sens, mais à propos du péché sexuel, c'est que peu de péchés asservissent autant que lui. En effet, plus on lui cède, plus il nous contrôle. Et vous devez savoir que cela commence parfois par des peccadilles. Des peccadilles qui peuvent petit à petit conduire à des choses plus graves pour aboutir finalement à des péchés aux conséquences désastreuses. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est un principe d'asservissement insidieux, progressif, et parce qu'il est progressif, insidieux. Et c'est d'ailleurs ce que semble dire Paul au verset 18, toujours que j'ai cité tout à l'heure, mais dans la deuxième partie, lorsqu'il déclare, c'est un verset difficile à comprendre, que celui qui se livre à l'inconduite pêche contre son propre corps, dans son entier. Alors vous devez savoir, chers frères et sœurs, nous devons savoir que selon ce principe d'asservissement progressif, on ne tombe que rarement dans des relations sexuelles extra-conjugales sans avoir au préalable préparé le terrain. Ça ne vous tombe jamais dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et il suffit dans ce sens de commencer par se laisser aller, par laisser aller ses pensées peut-être, puis ses regards, puis ses oreilles, puis ses paroles, puis ses gestes, pour aboutir finalement à la catastrophe. Si l'on n'est pas attentif, si l'on n'est pas discipliné à ces différents niveaux, eh bien c'est de façon quasi certaine le chemin dans lequel on va s'engager et qui va aboutir imperceptiblement, je le disais, mais certainement à l'adultère ou à la fornication. La fornication, c'est relation sexuelle hors mariage pour les personnes donc qui ne sont pas mariées. Alors nous comprenons donc ce matin, chers amis, que pour ne pas tomber dans ce péché et dans bien d'autres qui concernent la chair, nous nous devons de posséder et de contrôler à la fois nos pensées et nos corps. D'ailleurs, la conclusion de l'apôtre est claire à ce propos. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et c'est ainsi, en parlant de discipline, que Paul écrit aux Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car eux ne connaissent pas Dieu. Et vous, vous le connaissez. Et puis, pour être encore plus pratique, l'apôtre, mais dans une autre épître cette fois, en fait dans celle-là, nous montre la voie pour que nous sachions posséder nos corps et pour que nous les préservions de toute chute. Il écrit ceci: « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Le verbe qui est ici traduit par « traiter durement » signifie « pocher l'œil de quelqu'un », c'est-à-dire lui faire un cocard, ou couvrir le visage de bleu. Et nous devons ainsi comprendre que pour éviter que son corps ne le réduise à l'esclavage, eh bien, c'était Paul qui réduisait, lui, son corps en esclave, en le soumettant à une discipline acharnée. Ce n'était pas son corps qui le dominait, c'était lui qui dominait son corps. Et voici donc l'unique voie pour éviter de tomber. Que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire, s'imposer une forte discipline, être sévère avec soi-même à ce propos. Tant avec ses pensées que l'on doit contrôler et nourrir sainement, qu'avec les pulsions de son corps que l'on doit apprendre à soumettre, comme un cavalier qui soumet un cheval fougueux. D'ailleurs, à ce propos, permettez-moi de vous dire que la théorie selon laquelle on est des sortes de marmites à vapeur et qu'il faut à tout prix, vite, avoir un rapport sexuel parce qu'on risque d'exploser, n'existe pas. Nous ne sommes pas faits par Dieu selon le principe de la marmite qui va exploser si on n'enlève pas la pression. C'est faux. Et c'est ce que l'on m'a enseigné quand j'étais adolescent. Ah, il faut les laisser faire, comme ça, ça ressort bien à un moment ou à un autre. À titre d'illustration, je me rappelle d'un jeune couple qui n'était pas encore marié et qui m'avait demandé justement si je pouvais faire leur préparation de mariage et puis la bénédiction de leur mariage. Et je me suis très vite rendu compte que les deux vivaient ensemble ici à Lausanne pour des raisons financières. Et forcément, lorsque je les ai eus au téléphone, que je m'en suis rendu compte, j'aurais posé la question, j'aurais dit « Je suppose que vous ne faites pas chambre à part, n'est-ce pas ?» Ben non, ils ne faisaient pas chambre à part. Et la seule réponse que j'ai reçue de leur part, ou de sa part à lui, c'était « Mais tu vois, on était ensemble et puis on n'a pas pu faire autrement que de se maîtriser. » J'ai dû leur dire « Mais normalement, on doit maîtriser son corps. » Mais c'est clair qu'ils se mettaient dans des circonstances vraiment particulièrement difficiles. Souvenons-nous aussi que l'oisiveté est un piège. Et d'ailleurs, ce fut la raison pour laquelle David tomba. Il était tombé dans l'oisiveté. Alors qu'Israël combattait, menait une bataille pour envahir une ville, lui était tranquillement dans son palais. Et c'était un soir d'oisiveté qu'il se promenait sur la terrasse de sa maison, qu'il aperçut Bathsheba et qu'il fut séduit par elle. Alors soyons disciplinés. Apprenons à mettre à mort ce qui lutte dans nos corps et nos pensées par l'apprentissage d'un contrôle de ceci, de nos pensées, de notre corps. Ce ne sont pas nos corps ni nos désirs qui doivent être maîtres de nous, mais notre volonté, sanctifiée par Dieu et désirant l'honorer. C'est une lutte, c'est un combat, cela n'a rien de facile, mais c'est possible avec l'aide du Seigneur. Et dans ce sens, si vous me permettez encore un conseil pratique, eh bien apprenons aussi à fuir, comme nous l'avons compris ce matin par Salomon et ce verset 18, apprenons à fuir les lieux. Apprenons à fuir peut-être les personnes, apprenons à fuir les magazines, apprenons à fuir les émissions, les films ou les sites qui risquent de nous faire tomber. Puisque nous avons affaire à un monde qui justement nous conduit ou nous incite à tomber dans ce domaine de la sexualité. Je passe maintenant au deuxième point, notre corps est pour Dieu, les versets 13 à 20. Je le répète, après nous avoir exposé moyen de ces deux restrictions à une vie sexuelle saine, eh bien Paul nous présente maintenant trois arguments propres à nous motiver de façon positive à renoncer à l'inconduite. Et il nous montre ainsi tout d'abord que notre corps est pour le Seigneur, ensuite qu'il est membre de Christ, et enfin qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et il s'adresse donc aux croyants. Trois raisons pour lesquelles eh bien, nous devons rester maîtres de nous-mêmes et renoncer au péché sexuel extra-conjugal. Alors considérons ces trois vérités l'une après l'autre. Notre corps est pour le Seigneur. Ce sont les versets 13 et 14. Alors pour éclairer ces versets et se remettre dans le contexte, il faut rapidement rappeler quelle était la conception du mariage en Grèce du temps de l'apôtre. Il faut savoir tout d'abord que la monogamie était de règle. Mais bien que la monogamie fût de règle, l'épouse légitime devait essentiellement assurer la descendance et tenir le ménage. Voilà quelles étaient ses tâches. On lui demandait de mettre au monde des enfants, mais on ne lui demandait pas de vivre dans une communion sentimentale, intellectuelle, voire même spirituelle avec son mari. Celui-ci, de son côté, satisfaisait ses besoins amoureux et ses désirs sexuels avec des concubines, avec des prostituées, voire avec des hommes, puisque l'homosexualité avait cours à cette époque-là. C'est la raison pour laquelle il est question d'homosexualité au verset 10 de ce chapitre 6. Et pour justifier un tel comportement de la part des hommes, eh bien il faut savoir que les Corinthiens professaient une théorie selon laquelle le fait de coucher avec une femme était aussi naturel que de boire un verre d'eau. Il s'agissait pour eux d'un geste aussi anodin que de boire un verre. Aussi inoffensif et tout à fait légitime. C'est de là qu'était née cette expression « les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments ». Et de la même façon, on disait « eh bien, la femme est faite pour le corps de l'homme et le corps de l'homme pour jouir de la femme ». Et dans ces domaines-là, aucune religion, finalement, n'avait rien à dire à propos d'un acte qui était aussi naturel. Et remarquez, chers amis, permettez-moi cette digression, que même si aujourd'hui les femmes ne sont plus considérées comme des instruments de jouissance masculin, il n'en demeure pas moins que la sexualité dans notre société a été rabaissée au rang d'une simple copulation animale qu'il faut assouvir lorsque le besoin s'en fait ressentir, que l'on soit homme ou que l'on soit femme, avec peut-être la première personne qui nous tombe sous la main à ce moment-là, qu'on fait le film La guerre du feu. Ce n'est plus un droit, mais c'est même carrément un ordre. C'est la jouissance à tout prix. Pour revenir à notre texte, nous remarquons que l'apôtre n'admet pas cette comparaison abusive et scandaleuse entre la nutrition et la sexualité. Pour lui, le système digestif humain d'un côté et la vie de l'entier de la personne humaine de l'autre, corps et âme, ne peuvent pas être mis en parallèle. En effet, pour l'apôtre, l'estomac n'a qu'un rapport matériel avec les aliments. Ils n'ont ensemble, on pourrait dire, qu'une sorte de relation horizontale et temporelle. Et cette relation entre l'estomac et les aliments cessera à la mort de la personne. On peut dire que cette relation digestive est moralement, spirituellement indifférente, même si elle est importante pour la vie de l'homme, bien sûr, et que Dieu l'a voulu. Par contre, pour Paul, il n'en est pas de même de l'être humain dans son ensemble. Je le répète, c'est-à-dire corps et âme. Il est bien plus qu'un rapport digestif ou qu'un objet biologique qui a été créé pour la sexualité. Car l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Et c'est ainsi que celui qui est en Christ, parce qu'il possède maintenant à nouveau une relation verticale, c'est-à-dire spirituelle et intime, avec Dieu pour l'éternité, se distingue du reste de la création par ce rapport d'intimité, de dépendance avec le Créateur. Et Paul écrit au verset 13 que de ce fait, son corps est pour le Seigneur. Il est pour lui. Cela signifie que Dieu porte une attention toute particulière de gérer nos membres. Il porte une attention toute particulière à ce que nous faisons de nos corps, qu'il a créé, qu'il nous a donné. Il veut que nos corps de croyants lui soient offerts en sacrifice vivant, sain et agréable. Romains 12, le premier verset. Et ensuite, Paul continue en disant que le Seigneur est pour son corps et pour le corps du chrétien. Eh bien, cela signifie qu'il s'intéresse. Non seulement il les veut pour lui, parce qu'ils lui appartiennent, et il veut que nous les gardions sains dans notre relation avec lui, mais il s'intéresse à nos corps dans ce sens qu'il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour les utiliser à sa gloire, spirituellement, moralement, matériellement. Et nous découvrons à la fin de ces deux versets que cet intérêt que le Seigneur porte à notre corps va perdurer au-delà de la mort, puisqu'il s'engage à le ressusciter, à ressusciter notre corps pour le rendre semblable au corps glorifié du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, chers amis, connaissant aujourd'hui cette réalité de l'appartenance de notre corps à Dieu, du fait qu'il en est le propriétaire, de la nécessité de le lui offrir en sacrifice, mais aussi de son intérêt particulier, non seulement pour notre âme, mais pour notre vie physique, dans tous les domaines, à sa gloire, aujourd'hui et pour l'éternité, devons-nous donc prendre soin d'éviter par tous les moyens de souiller notre corps par la pratique d'une sexualité pervertie, puisque c'est le sujet de ce livre, et de bien d'autres perversions dans le cadre de nos corps. Paul continue, versets 15 et 18. Et il nous explique maintenant que non seulement les corps des croyants sont pour le Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité, parce qu'ils lui appartiennent, mais il nous apprend qu'ils sont aussi membres de Christ. On peut dire qu'il va une étape plus loin, et tout à l'heure il ira une étape encore plus loin. Car comme Paul le précise aux Éphésiens, Christ est le chef suprême de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Chapitre 1, les versets 22 à 23. Et encore dans une autre épître, aux Romains, il écrit ceci, « Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. » Ainsi, ce que nous devons comprendre ce matin, chers amis, c'est qu'en tant que chrétiens, étant incorporés au Christ par la foi, nous sommes devenus en quelque sorte un organe du Seigneur ici-bas. Avec notre corps, nous sommes membres d'un corps bien plus vaste, mais réel, physique et tangible, qui est le corps de Christ. Nous sommes des membres du corps de Christ, physiquement, réellement, ici-bas. Et de ce fait, Paul explique qu'un chrétien qui commet un péché sexuel, comme la fornication ou l'adultère, eh bien commet une abomination. Pourquoi ? Parce qu'il utilise pour ce faire une partie du corps de Christ. C'est en quelque sorte comme si tout à coup, le corps de Christ subissait une forme d'amputation. Le membre qui le quitte injustement en péchant sexuellement devient comme le membre d'une prostituée. Il est maintenant un organe infidèle qui n'obéit plus à la volonté de son vrai maître, mais au désir et au sens de la prostituée. Et celle-ci devient alors une rivale de Christ. Elle lui dispute, elle lui arrache le croyant. Et pour aller un peu plus loin, comme nous le découvrons au verset 16 et 17, l'union sexuelle entre un homme et une femme, telle que Dieu l'a établie, est à un tel niveau d'intimité émotionnelle, intellectuelle, affective, intime et spirituelle, que lorsque celle-ci est pratiquée par un chrétien en dehors des plans du Seigneur, c'est-à-dire en dehors du mariage, elle ne peut que porter gravement atteinte à l'union spirituelle qui attache ce chrétien déjà fortement à Dieu, parce que, comme le dit Paul, il forme avec son Sauveur un seul esprit. Ou pour dire les choses différemment, ou plus simplement, le raisonnement de Paul est le suivant, puisque le chrétien est un avec Christ, et que celui qui pêche sexuellement est un avec son complice, alors un chrétien qui pêche sexuellement se place lui-même dans une situation terrible, il trompe délibérément son Sauveur. Cela veut dire qu'il est dans une situation d'adultère spirituel. Et chers amis, devant une telle révélation, une deuxième révélation aussi importante, qui nous parle de cette étroite intimité qui existe entre nous et Christ, une révélation selon laquelle nous sommes devenus non seulement un seul esprit avec lui, mais également que nos membres sont devenus ici-bas réellement ses membres, les membres de Christ, eh bien, ne devrions-nous pas d'autant plus être sur nos gardes à propos de toute forme d'impureté sexuelle afin d'éviter de tomber dans l'adultère vis-à-vis de notre Sauveur. Et adultère spirituel, j'entends. Enfin, et ce sont les versets 19 et 20, Paul nous apprend maintenant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. En plus du fait que notre corps, en tant que chrétien, est membre du corps de Christ, il est aussi, pour chacun de nous, le temple du Saint-Esprit. Car l'Esprit Saint nous a été donné par Dieu afin qu'il habite en nous, afin qu'il nous guide, afin qu'il nous conseille, afin qu'il nous transforme à l'image du Fils. Nous l'avons reçu comme art de notre salut. C'est la raison pour laquelle l'apôtre nous appelle maintenant à la pureté sexuelle. Non seulement, je le répète, parce que du fait de notre intimité avec Dieu, nous sommes membres de son corps, mais parce que, toujours du fait de cette intimité, il habite en nous par son esprit. Et dans ce sens, et à titre d'avertissement, nous devons comprendre que dans quelque lieu qu'un chrétien commette un péché sexuel en dehors du cadre du mariage, eh bien il le commet finalement toujours dans le sanctuaire de Dieu. Et ceci est particulièrement grave. Et si vous me passez cette illustration, ou si vous me permettez cette illustration, c'est un peu comme si le souverain sacrificateur, en Israël, s'était permis de rentrer dans le lieu saint, puis dans le lieu très saint, avec une prostituée pour avoir un rapport sexuel avec elle. Ce serait ni plus ni moins qu'une abomination. Alors souvenons-nous de cela. Toute relation sexuelle extra-conjugale commise par un chrétien est accomplie dans le sanctuaire de Dieu qui est son propre corps. Et Paul continue en nous affirmant dans la suite de ces versets 19 et 20 que puisque le corps des saints est le temple de Dieu, eh bien, il ne leur appartient pas. Puisque c'est le temple du Seigneur, il ne leur appartient pas. Et dans ce sens, chers frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de disposer de votre corps à votre gré. Aujourd'hui, on dit c'est mon corps, c'est une propriété privée, c'est à moi, etc. Je peux en faire ce que je veux. au point même d'aller jusqu'à l'avortement. Finalement, la personne qui est à l'intérieur, elle m'appartient, ce qui est absolument faux. Je peux faire de mon corps ce que je veux et en disposer à mon gré. Ceci est faux. Dieu a un droit sur votre corps. D'autant plus si vous êtes ses enfants. Car ce corps, votre corps, celui que vous avez aujourd'hui, qui est assis maintenant, qui m'écoute attentivement, je l'espère, votre corps était condamné à la mort et à la perdition. Il était voué à l'esclavage abrutissant du péché. Mais Dieu l'a racheté à un grand prix. Comme l'ont racheté dans l'Antiquité des esclaves pour les affranchir ou les prendre à son service. Et le prix de ce rachat fut la croix de Jésus-Christ. C'est ce prix-là que Dieu a payé pour que vous lui apparteniez, non seulement votre âme, mais aussi votre corps. Et ainsi, vendre vos corps, comme le font ceux qui commettent l'adultère ou la fornication, serait ni plus ni moins que voler Dieu. Je conclue. Comme nous venons de le voir, chers amis, Dieu le Père a créé notre corps et s'attache à sa sainteté. Dieu le Fils l'a racheté et en a fait une partie de son corps. Nous sommes membres du corps de Christ, réellement. Et Dieu le Saint-Esprit habite en notre corps et en fait le sanctuaire de Dieu. Sachant cette ou ces grandes et merveilleuses vérités de notre union si étroite et pratique avec le Dieu trinitaire, alors comment pourrions-nous offenser Dieu en souillant son sanctuaire que nous sommes par l'utilisation de notre corps dans des relations sexuelles extra-conjugales? Comment pourrions-nous aujourd'hui, après avoir entendu et lu ces vérités, le faire? S'il vous arrivait de tomber dans ce péché, car cela peut arriver, aucun de nous ne peut dire « cela ne m'arrivera jamais ». S'il vous arrivait, ou s'il vous est arrivé, peut-être, de tomber dans ce péché, alors rappelez-vous que la grâce de Dieu peut changer la vie du pécheur repentant. Relisez le verset 11. Paul dit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. » Et il fait référence à ce péché, à l'homosexualité, à bien d'autres encore. La foi en Christ peut faire d'un pécheur aux mœurs légères une nouvelle création. Un chrétien qui est tombé peut se relever et marcher en nouveauté de vie. Alors il paiera peut-être le prix de son péché comme David, mais il est relevé, il peut se repentir et repartir. Et sachez ceci, mes amis, c'est qu'en tant que chrétien, il est important pour nous de vivre comme une nouvelle création de Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, et à l'Esprit Saint qui nous habite. Nous appartenons aussi au peuple de Dieu. Et nos péchés, nous l'avons vu ces derniers temps, peuvent affaiblir son témoignage, le témoignage de notre Église, et peuvent affaiblir notre communion. Rappelez-vous de ce commandement que nous relisons dans la première épître de Pierre, « Vous serez saints, car je suis saint. » Alors que cette sainteté, nous la recherchions particulièrement dans ce domaine de la sexualité. Et répondons, finalement, avec joie à cette injonction de l'apôtre, glorifions Dieu en toute chose, soit que nous mangions, soit que nous buvions, quoi que nous fassions, dans nos corps et dans nos pensées, que notre objectif premier, que notre but soit, que notre finalité, parce que c'est celle-ci, pour tout être humain et pour le chrétien en particulier, eh bien, soit de glorifier Dieu en toute chose, dans nos corps et dans nos pensées. Amen. Bien souvent, lorsque l'on est marié, on a ce sentiment que l'herbe chez le voisin est plus verte que chez soi. Et lorsque l'on n'est pas marié, Seigneur, on aspire aussi, Seigneur, à pouvoir satisfaire des désirs qui sont là, qui sont légitimes, Seigneur, en dehors de ce cadre-là. Tu vois que le péché éternel fausse toute chose et que le monde dans lequel nous sommes, Seigneur, nous y invite allègrement. Accorde-nous de ne pas prêter l'oreille éternelle au chant de ces sirènes, qui, comme nous l'avons vu, Seigneur, nous conduisent à un chemin de mort, Seigneur, à une mort certaine. Nous te demandons, Père, vraiment le secours dont nous avons besoin dans les circonstances qui sont les nôtres, afin de respecter, Seigneur, le cadre que tu as établi. Nous te demandons, Père, que tu nous aides à prendre soin de nos âmes, que Que nos pensées, Seigneur, soient gardées, maîtrisées, nourries sainement. Que nous sachions, comme l'apôtre éternel, garder nos corps éternels dans une discipline stricte. Que notre volonté soit renouvelée. Seigneur, ayant le désir par-dessus tout de t'honorer en toutes choses et particulièrement dans ce domaine. Nous crions à toi, éternel, car nous nous savons faibles. Aucun de nous ne peut dire qu'il ne tombera pas et qu'il n'est pas le fruit de ses tentations. Et c'est dans ce sens que nous avons besoin de cette discipline et que nous avons particulièrement besoin du secours de ton esprit. Viens à notre aide, nous t'en supplions, notre Dieu, et qu'ainsi, Seigneur, ceux qui nous entourent puissent voir qu'il y a de la joie, un réel bonheur éternel d'accomplir les commandements de Dieu, que c'est là que le véritable épanouissement se vit. À ta gloire, Père, nous te demandons vraiment que nous puissions être ainsi un témoignage et que ce témoignage puisse porter des fruits pour l'éternité. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.